France Culture. Ur, question du soir. Quentin l'a fait.
La période de transition que traverse le Vatican a mis en lumière les enjeux politiques du rôle du chef de l'Église catholique. Mais bien loin du Vatican et de ses dorures, la vie de dénuement des moines et moniales des monastères français est pourtant tout aussi politique. Organisation démocratique de la vie en collectivité, travail, gestion des ressources, la vie monastique répond à plusieurs des grandes questions que se pose notre société. De l'abbaye d'Ancalca au prieuré de Sainte-Bathilde, en passant par le monastère Sainte-Claire de Courmontreuil, le journal Timothée de Roglaudre a rencontré les moines et moniales de plusieurs monastères français avec une question: quelles leçons peut-on tirer de leur organisation? Bonsoir Timothée de Roglaudre.
Bonsoir.
Et bienvenue dans Question du soir. Vous êtes journaliste, indépendant et auteur. Votre livre intitulé La grâce politique du monastère, une utopie pour notre temps, vient de paraître aux éditions du Seuil. Merci d'être ce soir dans Question du soir. Est-ce qu'à votre avis, Timothée de Roglaudre, l'agitation vaticane qui a eu lieu ces dernières semaines, la transition du pape François au pape Léon, a intéressé les personnes qui peuplent les monastères que vous avez et traversés et rencontrés?
Alors, je vais vous répondre par une petite anecdote, puisque la semaine dernière, au moment de l'annonce de l'élection du nouveau pape, j'étais en retraite dans un monastère en Bretagne. Et j'ai demandé à un frère, avec un petit peu de curiosité, s'il avait un favori pour le... au conclave, et il m'a répondu: mon favori c'est le candidat de l'Esprit-Saint, avec une grande tranquillité. Donc c'était vraiment, ça tranchait beaucoup avec...
Risque, au moins.
Voilà, exactement, on peut dire que c'est pas beaucoup engagé, mais en tout cas ça tranchait avec effectivement les discussions médiatiques très intenses sur ce conclave dont on savait rien. Mais quand même, le repas a été retardé d'un quart d'heure pour que les frères puissent regarder la télé et voir le premier discours de Léon XIV à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Donc il y a quand même un intérêt assez fort, sachant que les moines et les moniales n'ont pas les réseaux sociaux, donc n'ont pas l'information en continu.
Est-ce qu'au-delà justement de cette transition politique importante, majeure, que nous avons toutes et tous suivie, est-ce que la vie vaticane est loin des monastères? Est-ce qu'elle intéresse tout de même les moines qui vivent aujourd'hui dans ces lieux?
Alors oui, elle les intéresse dans le sens où il y a, par exemple, dans les intentions de prière au cours des offices chaque jour, des intentions qui sont formulées pour le pape et pour l'Église. Donc les moines et les moniales se sentent faire partie quand même de l'Église universelle. Mais je dirais qu'il y a quand même une certaine autonomie, c'est-à-dire que les moines et les moniales ne suivent pas des espèces de directives qui seraient envoyées par le haut depuis le Vatican, même s'il peut y avoir des textes sur la vie religieuse, etc. Et je dirais qu'il y a quand même, c'est quand même à l'intérieur de l'Église, une espèce de fonctionnement parallèle, puisque justement dans la structure du pouvoir, là où le clergé, les prêtres, les évêques, etc. suivent une forme assez pyramidale avec le pape en son sommet, le fonctionnement des monastères est beaucoup plus horizontal, il y a beaucoup moins d'échelons hiérarchiques et donc c'est un fonctionnement plus léger.
Comment le pape François était-il perçu par ses moines?
Ça dépend des monastères, évidemment. Mais en tout cas, dans les monastères où je suis allé, il était beaucoup cité. Ses idées étaient beaucoup citées. Il y avait beaucoup de résonance, notamment sur la question de l'écologie. Puisqu'en 2015, quand il y a eu l'encyclique Laudato Si, en fait, beaucoup de moines et de moniales ont perçu ça comme une espèce de confirmation de beaucoup d'intuitions qu'ils avaient depuis toujours, en fait, sur une manière plus sobre de se rapporter aux ressources, de s'opposer à ce que le pape François a appelé la culture du déchet. Sur la question de l'hospitalité aussi, il y a eu beaucoup de convergences entre la pensée du pape François et les traditions monastiques, où l'hospitalité tient une place vraiment centrale.
Je voudrais vous faire entendre la voix du frère Emmanuel qui vit à l'abbaye Saint-Benoît dans Calca, à Dourgne dans le Tarn. Il s'exprimait dans l'émission Jour du Seigneur sur France 2.
Ce qui me rend heureux, c'est ma vie avec le Christ. C'est ça qui m'a fait rentrer il y a 27 ans maintenant, et c'est ça qui me tient ici. J'aime cette vie parce qu'elle est réelle. Voilà. Ce qu'on vit ici dans la communauté, c'est d'un réalisme incroyable. En ce sens, le monastère a toujours quelque chose à dire à notre société, parce que nous vivons ce que vivent les gens, nous travaillons, C'est un monastère de frères, donc voilà, on a les joies et les difficultés de la famille. Notre vie est une vie tout à fait authentique et incarnée.
Où vivent Timothée de Roglaudre, les moines et les moniales? Est-ce qu'ils vivent en dehors de la société ou dans sa périphérie?
Alors il y a une expression un petit peu traditionnelle qui est utilisée pour désigner la vie monastique, qui est celle de « fuga mundi ». Donc, ce qui en latin veut dire fuite du monde. Et aujourd'hui, cette expression peut être mal comprise comme une indifférence ou un rejet du monde. Et en vérité, moi, j'interprète plutôt ça dans mon livre comme une forme de vie à l'écart du centre du pouvoir économique et politique. Donc, une forme de mise en retrait volontaire et qui constitue implicitement une critique du monde à la périphérie du monde. Donc, c'est-à-dire, les moines et les moniales vont s'installer, alors, dans les premiers siècles du monachisme, c'était plutôt dans le désert. Mmh. Ensuite, historiquement, ça a été plutôt en milieu rural. C'est encore beaucoup le cas aujourd'hui. Et donc, avec l'idée qu'en prenant du recul, les moines et les moniales essaient de fuir non pas le monde en tant que tel, c'est-à-dire la société avec tous ses injustices, tous ses conflits, mais certaines tendances du monde qui sont perçues comme mauvaises et contraires à la vie évangélique authentique, la vie chrétienne authentique. Et par exemple, certains moines et certaines moniales citent les valeurs d'efficacité, de compétition ou encore de propriété. Donc finalement, c'est plutôt une forme de vie mondaine et d'affrontement direct avec le pouvoir qui est fui par ces moines et ces moniales.
Voilà ce que vous écrivez. Cependant, entrer au monastère pour se couper du monde ne paraît ni désirable ni vraiment réalisable, puisque le monde a façonné les personnes qui entrent dans les monastères et ils conditionnent ainsi leurs moyens d'existence, le travail qu'elles font, les objets qu'elles utilisent dans leur vie quotidienne et ainsi de suite, souligne sœur Marie-Laure, carmélite de Frileuse. Dans l'Essonne, les moines et les moniales arrivent ainsi dans la vie monastique avec une part du monde en eux, fin de citation. Quelle est justement cette part du monde qu'ils parviennent à apporter au sein des monastères?
Alors, je dirais que le monde, effectivement, traverse le quotidien de la vie monastique par plusieurs biais. D'ailleurs, d'abord, c'est une préoccupation assez constante qui est portée dans les prières des offices quotidiens. Donc, par exemple, moi, j'ai été beaucoup frappé par la mention des guerres, des conflits en cours, que ce soit à Gaza, en Ukraine ou ailleurs, même des conflits qui sont parfois un petit peu oubliés par l'arène médiatique. Donc, il y a vraiment le monde est présent en pensée et il est aussi présent de manière très forte à travers l'hospitalité, puisque une des activités principales des monastères aujourd'hui et d'accueillir du public, d'accueillir des gens qui vont faire des retraites, qui ont besoin de se ressourcer, de guérir de certaines blessures, etc. Et donc forcément, ces personnes du monde apportent quelque chose avec elles. Et donc, je dirais que historiquement, il y a une espèce de rapport dialectique entre le monde et le monastère, c'est-à-dire que le monde influence le monastère de manière un petit peu filtrée. Et en retour, le monastère a pu façonner certaines des institutions modernes. Donc, je parle par exemple de l'institution de l'hôpital qui a été façonnée par l'hospitalité monastique, mais aussi certaines formes de la vie démocratique moderne qui sont des héritages assez lointains de la vie monastique en collectivité.
On va revenir justement sur ce laboratoire démocratique que représentent selon vous ces monastères, mais le cœur de votre argument, le cœur même de votre livre, c'est d'expliquer que les monastères sont justement un laboratoire de l'utopie sociale. Ce n'est pas forcément intuitif, expliquez-nous ça.
Alors effectivement, c'est complètement contre-intuitif, puisque dans le mot utopie, il y a « ou » et « topos », donc le non-lieu ou le nulle part. Or, les monastères s'incarnent dans une communauté très concrète et dans un lieu très concret. Pour comprendre le rapport du monastère au monde, il faut s'intéresser à la manière dont la vie monastique a pu inspirer les utopies à la fois littéraires et politiques tout au long de son histoire. Je cite un philosophe de l'utopie, justement, qui s'appelle Jean-Jacques Wunnenberger, qui explique que le monastère a été en quelque sorte la matrice de l'utopie, puisque c'est un petit peu le premier lieu, la première tentative dans l'histoire d'essayer de vivre quelque chose qui se rapproche d'une société parfaite dès notre monde, dès le monde présent. L'imaginaire monastique a inspiré beaucoup de grandes utopies littéraires, à commencer par l'utopie de Thomas More, qui a forgé le néologisme. Mm-hmm. Puisque Thomas More a passé, pour écrire le livre, a passé 4 ans à la Chartreuse de Londres. Et beaucoup des formes de vie monastique se retrouvent dans le livre, notamment la mise en commun des biens, qui est quelque chose qui revient de manière assez assez régulière, ou encore le fait de prendre les repas en commun en écoutant une lecture. Un peu plus tard dans l'histoire, notamment au XIXe siècle, le monastère va aussi inspirer des utopies politiques et sociales très concrètes, donc des expérimentations sociales, notamment dans le mouvement des socialismes utopiques.
Il faut aussi nous parler d'une autre période, hein, la seconde moitié du XXe siècle, post-68, lorsque les monastères résonnent justement avec les combats, les grands combats de cette époque.
Oui, effectivement, il y a un petit peu encore une fois, une espèce de rapport dialectique entre les deux, entre ces utopies post-68ardes et le monastère, puisque la sociologue Danielle Hervieux-Léger raconte que à cette période, des néo-ruraux, par exemple, qui vont s'installer dans les Cévennes, demandent à un pasteur une copie de la règle de Saint-Benoît pour essayer d'avoir comme ça des inspirations d'une vie en communauté qui essaie de fuir l'atomisation de la vie urbaine.
La règle de Saint-Benoît, on rappelle ce que c'est, hein, c'est l'organisation de la vie monastique.
Alors c'est une des modalités de la vie monastique, donc qui a été écrite au 6e siècle par Saint-Benoît et qui est un petit peu le fondateur du monachisme occidental européen.
Je voudrais vous faire entendre la voix de trois moniales, justement, mère Marie-Madeleine, sœur Marie-Laure et sœur Marie-Agnès. On entend déjà justement comment le monastère peut être ce laboratoire de la démocratie que vous décriviez.
Je me demande si ça serait pas mieux de sonner à 17h au lieu de 17h15, pour qu'on ait vraiment le temps. Je pense quand même que c'est...
Je sais bien, mais à 17h15, si la cloche sonne à 17h15, qui à 17h17 ne peut pas être arrêté dans son travail? Je demande qui, honnêtement, enfin, objectivement, ranger quoi? Jean-Marie-Agnès.
Il peut pas. C'est pour ça qu'autrefois on sonnait plus tôt.
Oui, aujourd'hui on travaille à l'ordinateur.
Le temps n'est pas le même. Hein.
Le temps n'est pas le même qu'autrefois. Oui, 5 de quelle heure?
Non. S'il y avait une petite cloche à 6h05, juste avant les vêpres, la grosse cloche à 17h15, et une petite cloche à moins 5.
Patiemment le grand arbre fera mûrir son fruit, et la graine enfin sera germe sauveur au troisième.
Un extrait du documentaire intitulé Sœurs, diffusé sur Arte. On était là au prieuré Sainte-Bathilde de Vanves, Timothée de Roglot. Ce qu'on a entendu là, c'est à propos d'un sujet lié aux cloches et aux clochettes, une vie démocratique intense.
Oui, effectivement, ce qui est assez fascinant, c'est que les moindres détails de la vie quotidienne dans les monastères font l'objet de délibérations et de prises de décisions. Et ça depuis des siècles, en fait. Pour répondre à ce besoin de discuter tous les détails de la vie quotidienne qui peuvent nous paraître parfois anodins, des institutions horizontales ont été mises en place tout au long des siècles de la vie monastique. Et l'institution centrale, c'est celle du chapitre qui correspond en fait à l'ensemble des frères ou des sœurs de la communauté qui se réunissent régulièrement pour discuter de tous les sujets, et notamment des sujets les plus importants. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'inversion vis-à-vis de notre vie démocratique moderne, puisque les décisions les plus importantes pour la communauté doivent être validées par l'ensemble de la communauté, ou en tout cas faire l'objet d'une délibération qui va essayer de donner un consensus où on va le moins possible voter. La décision est dans la mesure du possible prise par consensus pour éviter de créer des divisions ou un esprit partisan dans la communauté.
Alors justement, à propos du chapitre, racontez-nous ce que vous avez vu, vécu, perçu avec les sœurs Clarisses de Cormontreuil.
Oui, effectivement, j'ai pu assister à un chapitre à Cormontreuil.
C'est un privilège, il faut le dire.
Assez rare, effectivement. Donc elles m'ont accordé une grande confiance. Ce qui m'a frappé, c'est d'abord que le caractère horizontal est très est très physiquement représentée. C'est-à-dire que les sœurs sont assises un petit peu en carré, voilà, aux quatre coins de la pièce. Et l'abbesse de la communauté, donc qui est un petit peu la dirigeante, est une espèce de médiatrice. Mmh. Donc voilà, elle va passer le micro, elle va dérouler l'ordre du jour. Donc elle fait en sorte que les débats se déroulent de la meilleure manière possible. Mais toutes les sœurs ont le droit de s'exprimer, même les plus récentes dans la communauté. Ça, c'est quelque chose d'assez fort dans la vie monastique. Et je dois dire que j'étais assez content de pouvoir assister à un chapitre au sein de cet ordre, celui des Clarisses, puisque c'est un ordre qui est né au XIIIe siècle et qui pousse cette intuition démocratique plus loin que ce que l'avait fait Saint-Benoît. Parce que la règle de Sainte-Claire d'Assise dit que toutes les décisions de la communauté doivent être prises du commun consentement des sœurs, là où dans la règle de Saint-Benoît, le chapitre était consultatif et la décision revenait en bout de course à l'abbé ou à l'abbesse.
On parle, Timothée de Rogloudre, de démocratie au sein des monastères, mais comment se pense le rapport à l'autorité? Il faut bien trouver un équilibre entre la dialectique liberté versus obéissance dans ces lieux où Dieu représente tout et même le devenir.
Oui. Moi, effectivement, c'est ce que je trouve assez intéressant dans la manière d'organiser la vie communautaire, c'est que les monastères pensent à la fois la dimension horizontale et la dimension verticale du pouvoir. C'est-à-dire qu'ils partent du principe qu'on ne peut pas se débarrasser de la verticalité. Et en ce sens, c'est assez intéressant pour tous les mouvements autogestionnaires de Nuit Debout aux Gilets jaunes qui, pour certains, ont essayé de se débarrasser de la verticalité sans y parvenir. Et le pari de la vie monastique, c'est d'avoir cette figure de verticalité qui, parfois, peut paraître assez forte, assez descendante, notamment dans la règle de Saint-Benoît. L'abbé est décrit comme celui qui tient la place du Christ. Après, on peut se dire que la place du Christ, c'est celle du maître qui se fait serviteur, si on lit bien l'évangile. Mais en tout cas, il y a pu avoir une forme très verticale de l'abbatiat bénédictin. Mais ce pouvoir vertical va être encadré par des institutions symboliques, par le fait, par exemple, que l'abbé va laver les pieds des frères chaque année pendant le jeudi saint, donc avant Pâques, mais aussi par des institutions politiques très concrètes, donc le conseil de l'abbé ou de l'abbesse qui va servir de contre-pouvoir, et puis bien sûr ce chapitre qui reste quand même l'institution souveraine et centrale, sans qui la vie communautaire ne peut pas tenir.
Retournons, si vous le voulez bien, grâce au documentaire Sœurs diffusé sur Arte, au prieuré Sainte-Bathilde de Vanves.
Une petite assiette carrée comme ça, 8 sur 8, avec 3 feuilles de salade dessus et un petit ramequin de salade de fruits où il y a l'équivalent de 2-3 cuillères à soupe, c'est tout. C'est de la salade de fruits en
boîte. Ouais. Alors elle est mélangée.
Parce que en même temps, tu me mets un petit morceau de beurre salé.
D'accord.
Ah non, mais là, vous n'avez pas fait vœu de pauvreté.
Non, c'est vous qui nous en empêchez. Hein.
Mais non.
Voilà. Non, c'est le non, vrai
en
sens.
En tant que bénédictine, on n'a pas le vœu de pauvreté.
Ah bon. Nous, on a des appropriations.
Voilà. Donc, on ne décide pas ce qu'on nous donne. Donc, on reçoit les fraises.
On prenait tout.
Et on reçoit les fraises et on dit merci. Voilà. C'est offert, mais il y a du travail.
On reçoit les fraises et on dit merci, Timothée de Rogloudre. Au cœur de cette utopie monastique, il y a la fin de la propriété, la mise en commun des biens et même des corps.
Absolument, c'est quelque chose qui existe dès les origines de la vie monastique. C'est même assez fondateur dans le monachisme chrétien, puisque les premiers moines, qui sont plutôt des ermites qui vont dans le désert, sont des personnes qui entendent une espèce d'appel, en se mettant à l'écoute de l'évangile, à abandonner leurs richesses pour suivre le Christ. Et ensuite, ce refus de la propriété va se structurer de manière communautaire, donc à partir de Saint Pacôme le Grand au IVe siècle en Égypte. Et le modèle qui est pris et qui revient régulièrement dans les règles monastiques, c'est celui des Actes des Apôtres, donc c'est un des livres du Nouveau Testament, qui décrit la vie des premiers chrétiens de Jérusalem. Et on peut lire que tout est mis en commun et que les ressources sont distribuées selon les besoins de chacune et de chacun. Donc vraiment, la propriété personnelle est abolie et ça, c'est quelque chose qui a été un petit peu perdu dans l'histoire du christianisme et qui a été vraiment conservé dans la vie monastique et qui est une constante dans l'histoire monastique. La propriété communautaire peut exister, donc certains ordres se sont enrichis au cours de l'histoire des monastères. Je pense notamment à l'ordre de Cluny qui était assez proche du pouvoir féodal, ou l'ordre de Cîteaux qui a joué un petit peu un rôle de précurseur dans la naissance de l'industrie. La propriété personnelle est abolie et aujourd'hui ça se traduit de manière assez assez concrète par le fait que le frère ou la sœur qui va prononcer ses vœux va fermer son compte en banque après en avoir distribué le contenu selon sa volonté et renoncer à son smartphone et à son ordinateur personnel. Et en fait, moi, ce que je trouve intéressant politiquement dans cette réflexion sur la mise en commun, c'est que depuis les débuts de la vie monastique, elle est vécue comme quelque chose qui libère et qui est source de joie à la fois pour les riches et pour les pauvres. Pour les riches parce que elle libère d'une forme d'emprisonnement de l'accumulation, l'accumulation de biens, l'accumulation de technologies. Et pour les pauvres, cette mise en commun est la garantie d'une forme de sécurité. Donc finalement, c'est une forme de communisme primitif, pré-marxiste, et qui nous fait réfléchir dans notre monde où tout est de plus en plus marchandisé à ce que mettre en commun les biens et les richesses peut nous apporter.
Vous faites aussi, Timothée de Roglaudre, de ces monastères que vous avez traversés et découverts, des lieux de l'écologie intégrale, des lieux où l'on repense aussi le rapport au travail, le rapport au management, le rapport au loisir même. Est-ce que néanmoins tous les monastères sont des centres vitaux de ces utopies sociales ? Est-ce que vous n'avez pas peut-être, par goût politique ou que sais-je, choisi les monastères, les ordres qui semblaient vous attirer le plus spontanément ?
Alors si, certainement. Après, je suis allé en fait, on va dire dans des endroits qu'on m'a conseillé. Donc c'était des personnes que je connaissais, donc il y a forcément une espèce de biais sociologique. Mais je suis quand même allé parmi les 10 communautés que j'ai visitées dans l'abbaye de Saint-Vendry, qui est une abbaye plutôt classique, qui est fréquentée par des catholiques plutôt assez souvent conservateurs ou plutôt des milieux, on va dire business.
Et même parmi les conservateurs, parmi justement cet ordre plus traditionnel, vous avez retrouvé cette ambition à l'utopie ?
Alors oui, complètement. En tout cas, j'ai retrouvé les mêmes formes de vie, puisqu'elles viennent de la même source, en l'occurrence de la règle de Saint-Benoît et par extension des textes bibliques. Et donc, par exemple, à Saint-Vendry, j'ai eu des discussions passionnantes avec des frères sur la question de l'organisation en communauté, dont on parlait de la délibération et de la prise de décision, mais aussi sur l'écologie. Par exemple, Saint-Vendry est actuellement, je crois, la seule abbaye à produire sa propre bière. Les frères essaient de faire une espèce de lobbying pour relocaliser la production de houblon. Parce que Saint-Vendry est en Normandie et actuellement, le houblon vient du Nord. Et donc, il y a ce souci des circuits courts.
Et de la relocalisation
qui vient là aussi de la tradition monastique, qui n'est pas du tout une invention moderne.
Le monastère à l'opposé ou en orthogonalité avec le capitalisme, des historiens, des sociologues prétendent parfois l'inverse, expliquent justement que les monastères sont le foyer du capitalisme, bien au contraire. Qu'est-ce que vous leur opposez ?
Alors effectivement, il y a plusieurs chercheurs qui ont un petit peu suivi l'intuition de Max Weber, parce que Max Weber a écrit au début du XXe siècle l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Et donc on connaît assez régulièrement la formule sur l'ascèse protestante, une certaine forme d'ascèse protestante qui aurait engendré, en tout cas participé à engendrer le capitalisme. Mais Max Weber dit aussi que cette ascèse vient en fait des monastères et d'un certain rapport au travail dans les monastères. Et donc voilà, d'autres chercheurs ont un peu prolongé cette intuition en faisant une des matrices de la religion industrielle, du capitalisme, etc. J'aurai pas le temps de répondre point par point aux arguments qui sont donnés, mais je vais juste en prendre un. C'est par exemple l'attention qui est accordée au travail manuel. Donc certains chercheurs disent que la revalorisation du travail manuel par rapport au travail intellectuel aurait contribué à engendrer le capitalisme. Or, si on lit Karl Marx, la séparation du travail intellectuel et du travail manuel fait justement partie de ce qui a permis la naissance du capitalisme. Donc il y a quand même une forme de contradiction. Après, je nie pas qu'il puisse y avoir des circulations historiques dans certains ordres, mais en tout cas, si le capitalisme était né du monachisme, la propriété personnelle n'existerait pas. Or, c'est justement sur ce principe-là que repose le capitalisme.
Merci Timothée de Roglot de vous signer La grâce politique du monastère, une utopie pour notre temps. C'est aux éditions du Seuil. Merci d'être venu ce soir dans Question du soir.
Merci.